Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On a pris un petit peu de retard, mais nous sommes bel et bien là. Avec Arnaud Benedetti, bonjour, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Patricia Balm est avec nous, communicante, présidente fondatrice de PBCom International. Gaëtan Dussausset, membre du Conseil national du Rassemblement national. Et Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour à tous. Évidemment, nous allons revenir sur l'élection américaine. Joe Biden est à quelques sièges de remporter cette élection. Donald Trump ne lâchera rien. On va en reparler avec vous. Y a-t-il un problème Castex ? Cette question revient de plus en plus souvent. Et puis le confinement est-il assez respecté ? On nous annonce un couvre-feu pour ce soir. Est-ce que cela va changer les choses? Toutes ces questions avec vous, 0826-300-300. Petit tour de table sur ce dont vous aviez envie de parler les uns et les autres, hors de cette actualité extrêmement anxiogène, on va dire. Gaëtan, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur, c'est positif?
Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'on a un peu besoin d'avoir de bonnes nouvelles de temps en temps. Et donc, j'avais un coup de cœur pour ces initiatives qui sont prises par des Français, à commencer par exemple par le French Kiosk qui s'est lancé il n'y a pas longtemps. J'ai pas d'action chez eux, hein, donc c'est pas du tout un placement de produit ou quoi que ce soit. Mais donc, c'est un principe qui consiste en fait à permettre pour vos apéros d'aller chercher, on va chercher pour vous et on vous livre à domicile des produits qui sont directement issus des producteurs locaux et français. Donc, c'est 100% français, c'est 100% responsable, puisque ça met en avant aussi bien la bonne rémunération de nos producteurs qu'un certain nombre de dispositifs qui respecteraient l'environnement, le droit des animaux ou encore l'inclusion sociale. Donc voilà, plus globalement, c'était surtout en fait pour faire un grand coup de cœur en fait pour toutes ces initiatives de Français qui, depuis le premier confinement, ont créé en fait, ont redoublé d'inventivité et de créativité pour créer en fait de nouveaux circuits de distribution et permettre en fait une solidarité au niveau national. Je pense que ça annonce de très belles choses pour l'avenir.
Oui, il y a pas mal d'initiatives comme celle-là. Donc, regardez autour de chez vous. Il y a les grandes surfaces qu'on fustige en ce moment, qui ont également ouvert des espaces pour que les petits commerçants puissent venir porter leurs produits pour du click and collect. Je ne sais pas quel mot on peut employer. J'ai vu hier, il y avait un mot français, c'est commander et venir chercher. En tout cas, il y a plein d'initiatives, effectivement, comme celle-là. Patricia, c'est un coup de cœur, clin d'œil, plutôt joyeux.
Ah, très joyeux. Bonjour. En fait, la France, sans le vouloir, s'est invitée dans la campagne électorale américaine, puisque Donald Trump a esquissé des pas de danse sur une musique, une chanson qui a été un tube des années 80 qui s'appelle YMCA. Et qui...
Alors, on va l'entendre pour que tout le monde la coupe. Voilà.
Et en fait, il faut dire pour ceux qui ne le savent pas que cette chanson, ce tube, a été composé par deux Français, Henri Bellolo et Jacques Morali. Ils nous ont quittés tous les deux et je pense que s'ils regardent ça de là-haut, ils doivent bien s'amuser parce que c'était un clin d'œil et la France a un talent immense et je trouve que c'était sympa d'écouter un peu de musique dans ces moments un peu anxiogènes.
Voilà, absolument. Je suis pas sûre que la danse de Donald Trump était très élégante, non. Mais bon, ça avait le mérite d'être joyeux. Voilà.
Exactement.
Alors, Arnaud Benedetti, c'est un coup de gueule, je crois.
Bon, c'est plutôt, c'est un coup de gueule. Je suis pas sûr que ce soit un coup de gueule. En tout cas, c'est un constat. C'est l'intervention d'Olivier Véran il y a maintenant 24 heures en pleine nuit lors du débat au Parlement sur l'urgence. La reconduction de l'urgence sanitaire et les propos qui ont été les siens, qui ont manifesté, c'est le moins qu'on puisse dire, des signes de nerviosité évident, où il a sommé de se taire une parlementaire. Je crois que quand même, il y a un petit souci, c'est que certes, nous traversons une crise, mais la crise, elle ne suspend pas l'espace délibératif. Je crois qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce point-là. Je rappelle que l'économie aujourd'hui pâtit d'un confinement, d'un nouveau confinement, que la vie sociale est quand même limitée, même si on voit que le confinement ne se déroule pas tout à fait dans les mêmes conditions que lors du premier confinement. Il ne faudrait pas quand même rajouter à toutes ces contraintes une pression trop grande sur le fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Et je trouve que les propos d'Olivier Véran, au-delà récemment de la pression qui s'exerce sur lui en tant que ministre de la Santé, et que l'on veut bien admettre, autant les uns que les autres, ne sont pas véritablement susceptibles de garantir un débat démocratique serein, d'autant plus que quand même, il y a un problème dans ce dispositif d'urgence sanitaire tel qu'il est présenté par l'exécutif, qui s'est d'ailleurs trouvé mis en minorité lors de ce vote, faute de combattants.
Oui, parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux.
Groupes parlementaires, mais ça, c'est leur problème. Hein, s'ils ne font pas leur job au niveau du Parlement, à un moment donné, je veux dire, ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'un groupe majoritaire se retrouve dans cette situation de minorité, surtout lors d'une séance de nuit. Mais il y a quand même un petit problème, c'est que, globalement, il y a même une contradiction. On nous annonce la possibilité de pouvoir éventuellement relâcher un peu le confinement à partir de la mi-décembre, mais en même temps, on veut prolonger l'état d'urgence jusqu'au mois de février. Donc là aussi, ça fait partie finalement de tous ces éléments, j'allais dire, de communication politique qui, depuis maintenant des mois, perturbent l'opinion publique et ne favorisent vraisemblablement pas la bonne appropriation de la situation par nos concitoyens.
Alors, je vous propose qu'on le réécoute, Olivier Véran. Vous me direz ce que vous en avez pensé.
C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux.
Alors, je ne sais pas, Patricia Balm, qu'est-ce que vous en avez pensé?
De toute façon, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, depuis le début, cette communication est mauvaise, elle est incohérente, on a vu tous les couacs, on a vu toutes les erreurs. Maintenant, il s'agit quand même de la personnalité d'un ministre en exercice et qui a un poste extrêmement important, c'est le ministre de la Santé. Et je trouve que ce type de comportement au sein de l'Assemblée nationale, et je fais souvent des comparaisons entre l'Assemblée nationale et le Sénat, où le Sénat, il y a un silence, on écoute les uns et les autres. Et là, il a piqué une crise de nerfs qui n'est pas justifiée. J'entendais, Valérie, dans votre émission précédente, la réaction formidable de Christian Jacob, qui lui aussi s'est emporté, mais qui a recadré quand même le ministre de la Santé, qui a commis énormément d'erreurs depuis le début de cette crise sanitaire. Si vous voulez, cette crise d'énervement n'est pas digne d'un ministre de la République française.
Alors, bon, moi, je dis très sincèrement, j'ai été au contraire assez touchée par sa réaction, parce que je me suis dit que c'était un humain, qu'il est confronté, qu'il va dans les hôpitaux, qu'il voit la situation et qu'il peut. Alors oui, il doit garder ses nerfs, mais qu'il est confronté à une situation qui est absolument dramatique quand on est au contact avec des soignants et qu'on voit les réanimations. J'ai pu comprendre, moi, son indignation, mais
Valérie, je trouve que vous justifié de dire sortez.
Peut-être pas, non, peut-être sortez, pas, peut-être voilà. pas.
Mais il parle quand même à un membre de la représentation nationale, donc il y a quelque chose en effet de choquant dans son comportement, qu'il soit un homme, ça, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Mais il est ministre. À partir du moment où il est ministre, il faut qu'il respecte l'opposition, et en l'occurrence, manifestement, ça manque de respect.
Alors, Jean-Luc Benamias.
C'est totalement. On regarde bien, je l'écoute plusieurs fois, je l'ai écouté comme tout le monde beaucoup de fois. C'est surjoué complet. Je peux comprendre qu'il ait beaucoup de fatigue.
Je suis pas sûr, moi, que ce soit
moi
surjoué.
Moi non plus.
Je pense qu'il craque complètement.
Oui. Mais non, et s'il craque, alors il a qu'à engueuler les députés de La République En Marche qui ne sont pas présents quand ils devaient être présents. Les premiers à engueuler dans ce cadre-là. Car quand vous regardez, c'est une séance de nuit, c'est vrai. Mais quand vous regardez la présence de beaucoup de parlementaires, très souvent, il y en a beaucoup moins que ça qui sont présents dans l'hémicycle. Et là, quels sont les absents ? La République En Marche. Oui. Quand on fait ce genre de vote un peu important, en tout cas qu'ils jugent comme important, on est présent. Voilà.
Ouais.
Notamment
ouais.
ceux qui sont les députés d'Île-de-France, hein, qui doivent être présents beaucoup plus, évidemment, que les députés qui vivent au fin fond de la province.
Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, Gaëtan, du ce soir, vous nous donnerez votre avis et on parlera évidemment de ce confinement pas très respecté des élections américaines. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio avec vous pour commenter l'actualité, l'élection américaine. Est-on en train de voler l'élection de Donald Trump? On va reparler du reconfinement avec vous, 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous, les débats, et avec Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre dernier livre, Le progrès est-il dangereux chez Humain Science? Patricia Balme, communicante, présidente fondatrice de PBCom International. Gaëtan Dussausset, membre du Conseil national du Rassemblement national. Et Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Nous allons revenir sur l'élection de Donald Trump ou de Joe Biden, hein, on ne sait toujours pas pour le moment. On va parler du confinement qui n'est pas assez respecté apparemment, et puis de Jean Castex, y a-t-il un problème avec le Premier ministre? Gaëtan Dussausset, on ne vous a pas entendu sur ce qu'évoquait. Alors on a des réactions hein, d'auditeurs qui disent il n'a pas à perdre ses nerfs comme ça, alors Xavier qui nous dit son indication n'est pas recevable car il a fait des erreurs et n'a pas préparé le pays à une seconde vague. Les gens semblent aller effectivement dans votre sens, Arnaud Benedetti. Gaëtan, pour vous, c'était aussi irrecevable ce coup de colère?
Oui, bien sûr, mais je pense que d'ailleurs c'est assez clair pour un certain nombre, je pense pour la majorité des Français qui se disent que c'est pas du tout digne et c'est pas du tout ce que l'on attend de la part d'un ministre de la Santé ou d'un ministre tout court. Parce que j'entends très bien l'argument du « oui, mais c'est un humain comme les autres ». Oui, évidemment, quand on est responsable politique ou quand on est ministre, on reste un humain comme tout le monde. Mais un humain comme tout le monde, lorsqu'il est au boulot, s'il se trouve à péter un câble comme ça, il a un blâme ou il est viré. Donc c'est pareil pour un ministre en réalité. On ne peut pas avoir des coups d'éclat comme ça, des coups d'humeur, des sauts d'humeur. Faut savoir se respecter. Je parlais dans un cadre professionnel, mais même dans un cadre privé. Amusez-vous à péter un câble contre un de vos amis à domicile. Je suis pas certain qu'il revient chez vous par la suite. Donc, il faut pas s'étonner que les gens soient choqués, d'autant plus quand Olivier Véran et le gouvernement, de manière plus générale, a totalement manqué sur un certain nombre de dossiers pour gérer cette crise sanitaire, que ce soit sur la question des masques où ils ont menti dans un premier temps, sur la capacité à tester tout le monde, où on se retrouve aujourd'hui avec un pays qui est quand même la France, qui a moins de capacité à tester sa population que des pays comme la Hongrie ou la Slovaquie. Donc voilà la réalité des choses. Donc c'est évident que les Français soient très peu indulgents avec le gouvernement, surtout avec cette attitude.
La phrase la plus inacceptable, ouais. si je peux me permettre, ouais. Valérie, c'est quand même la phrase « si vous n'êtes pas d'accord, sortez ».
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est ce que disait Patricia Balme.
S'énerve, ok, très bien. Mais sortir ça montre, ça dépasse sa pensée, me semble-t-il.
Oui, Gégé nous dit on a le droit d'être exaspéré quand on voit comment les gens nient cette maladie. À un moment, on a le droit de taper du poing sur la table. Moi, je trouve ça bien qu'un ministre ne se laisse pas faire. Bon, voilà. Peut-être qu'on peut enchaîner avec Jean Castex et la problématique de ce Premier ministre qui n'imprime pas. Alors peut-être Arnaud Benedetti, vous qui êtes un fin analyste du discours politique. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça?
C'est un Premier ministre qui a des difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire, à habiter la fonction. Alors d'abord, je pense qu'il n'a pas une maîtrise familière des codes de la communication politique. Ça se sent dans sa gestuelle, parfois même jusque dans son expression. Il y a là, récemment, un apprentissage qui manque. L'autre aspect, c'est que finalement, on hésite toujours avec Jean Castex. Encore une fois, moi je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est une sorte de produit hybride à la fois entre le technocrate, le haut fonctionnaire formé au lait de la haute administration publique et de l'École nationale d'administration, et puis cet homme des terroirs qu'il veut absolument sursouligner et que l'on a vendu un peu d'ailleurs comme la marque de fabrique de ce nouveau Premier ministre qui devait être à l'écoute des élus locaux et des territoires. Et je trouve que il habite finalement avec la plus grande difficulté, non seulement la fonction, mais il habite aussi, je trouve, par sa pratique politique en tant que telle, assez mal l'image qu'il veut véhiculer. On a vu que depuis maintenant plusieurs semaines, il y a eu un certain nombre d'anicroches avec les élus locaux, avec les collectivités locales, encore récemment avec les arrêtés qui ont été pris par un certain nombre de maires dans un certain nombre de communes pour s'opposer à la fermeture des commerces de proximité de centre-ville. Jean Castex, c'est finalement quelqu'un qui non seulement a du mal, encore une fois, à être le chef de sa majorité, mais qui finalement ne tient pas la promesse initiale qui était la sienne. Et donc, je crois qu'en effet, il y a un doute aujourd'hui qui se pose. Est-il en voie de cressonisation, comme d'aucuns le disent ? Je ne suis pas tout à fait sûr, en l'occurrence, mais si...
Pourquoi ? Quelle différence vous faites avec Edith Cresson ?
Ben, si vous voulez, Edith Cresson avait de son côté, il faut s'en souvenir, en 92, commis un certain nombre de gaffes qui avaient particulièrement à la fois amusé l'opinion publique, mais aussi irrité jusqu'à l'intérieur de sa majorité. C'était une personnalité qui était certainement beaucoup plus, qui développait plus d'allergie dans son propre camp que Jean Castex à ce stade. Mais moi, je pense que le problème de Castex aujourd'hui, c'est aussi le problème de sa crédibilité. Il ne faut jamais oublier qu'il a été l'homme du déconfinement, qu'on est obligé de reconfiner, et que si les effets de ce reconfinement ne se font pas sentir assez rapidement, à un moment donné, on imputera la responsabilité de l'échec de ce reconfinement sur celui qui est aujourd'hui le Premier ministre. Donc, je crois qu'en effet, il est dans une situation qui est un peu compliquée.
Alors, ouais, moi, je dirais, Valérie, que ouais. C'est certainement au départ un homme de bonne volonté. Simplement, le costume est trop grand pour lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été effectivement monsieur confinement, monsieur déconfinement, et que tout d'un coup, il passe de cette fonction à la fonction de Premier ministre. Et on sait qu'il y a un parcours qui est normalement assez logique. Il faut quand même exercer une fonction ministérielle, même secrétaire d'État, avant de devenir Premier ministre. Alors, vous me direz, il est vrai qu'Édouard Philippe, lui aussi, est arrivé comme ça, mais Édouard Philippe avait une longue carrière politique derrière lui, notamment auprès d'Alain Juppé. Le problème aussi pour Jean Castex, c'est la comparaison inévitable avec Édouard Philippe, qui lui a su faire le job, qui avait l'habitude des médias et qui savait s'exprimer d'une façon beaucoup plus rigoriste. Alors que Jean Castex, quand il s'exprime, et c'est ça le problème, c'est qu'il est très désordonné. Et on ne comprend pas, on ne suit pas. Et il ne se cadre pas lui-même dans son expression orale. Donc, il y a un désordre total quand on l'entend. Et c'est pour ça que les Français n'impriment pas. Alors, il avait au départ le côté très sympathique avec l'accent, et on aurait pu penser que ça allait être quelqu'un de bienveillant, d'aimable et de sympathique. Et voilà, il se prend les pieds dans le tapis en permanence. Donc, je pense qu'il n'était pas fait pour ce costume trop grand pour lui.
Oui, et puis des ministres qui ont pris beaucoup de poids, comme le maire d'Armanin, Véran, oui, Jean-Luc Benignan.
Oui, mais sont de vrais politiques, qui ont une vraie expérience politique.
Jean Castex aussi est un vrai politique. Il a dirigé, il a été maire, président de département, il a géré un certain nombre de grandes fonctions. Je termine. Jean Castex, par qui a-t-il été choisi ? Par le président de la République. Donc le choix qui a été fait est un choix qui est significatif. On l'a choisi parce qu'il était comme ça, parce qu'il allait, on allait le percevoir tel que nous le percevons, c'est-à-dire une personne qui est lente, parle avec un accent, mais ça n'est pas grave du tout, bien au contraire, mais surtout qui n'imprime pas. Il a été choisi pour ne pas imprimer, car quand on a un président de la République qui, tous les trois jours ou tous les quatre jours, prend la fonction de tout le monde, de l'ensemble des ministres et des secrétaires d'État, à un moment donné, il ne reste plus beaucoup de place. Voilà. Et puis, quand on passe après Édouard Philippe, c'est extrêmement compliqué.
Oui, mais c'est surtout, moi, je pense qu'à un moment donné, Oui, je trouve qu'on donne un peu trop d'importance finalement à Jean Castex dans la gestion de cette crise sanitaire, parce que en réalité, ça vient d'être dit, c'est pas le chef du gouvernement, c'est pas le gouvernement qui est en train de mener la guerre au virus, c'est des conseils de défense, c'est l'Élysée, c'est Emmanuel Macron directement. En fait, je pense que là, Jean Castex, il sert un peu, on va dire, d'alibi, il sert un peu de couverture, comme ça, en fait, s'il y a un problème, si vraiment il y a un moment donné la marmite française du consentement du peuple français à accepter les restrictions et les mesures liberticides qui sont prises, eh bien, explosent, eh bien, on dégagera Castex, parce que c'est la couverture, c'est le fusible, c'est celui qui est un peu qui sera la bonne excuse pour donner l'impression qu'on change quelque chose. Mais en réalité, la guerre qui est menée à ce virus, ou la tentative de guerre qui est menée à ce virus, elle est directement décidée par l'Élysée et Emmanuel Macron.
Oui, mais c'était le cas aussi. Avant. C'était aussi le cas avant.
Arnaud Benedetti. Il y a quand même eu des débats à l'intérieur de l'appareil d'État entre, par exemple, Bruno Le Maire et Olivier Véran. Et le président de la République lui-même, je veux dire, était, disons, dans la phase que l'on a traversée, plutôt, disons, enclin à éviter de relever le niveau de contrainte sanitaire. Oui. Et on voit bien que c'est la ligne du ministre de la Santé qui l'a emporté ces derniers jours. Je suis pas sûr qu'il y ait une homogénéité aujourd'hui aussi forte à l'intérieur de l'exécutif, et que même Emmanuel Macron soit… Alors si, il est décisif parce que c'est le président de la République et c'est lui qui arbitre en dernier ressort, en l'occurrence. Mais lui-même est quand même, disons que la position d'Emmanuel Macron, pour aller plus vite, est le produit de rapports de force à l'intérieur du gouvernement aussi. Je crois que c'est une réalité, et les choses sont vraisemblablement beaucoup plus compliquées qu'elles n'y paraissent.
Mmh. Un auditeur nous dit: non, il n'y a pas de problème Castex en lui-même, c'est une erreur de casting de l'ensemble de l'exécutif, président et gouvernement, voire Assemblée nationale. Monsieur Macron avait quasiment tous les pouvoirs pour mettre en place ses promesses. Et Xavier nous précise que Jean Castex n'a jamais été président de département, Jean-Luc. Donc, quelqu'un qui habite en Occitanie, donc qui connaît, je pense, un peu la région.
Oui, il est maire de Prades.
Il est maire de Prades, absolument. Mais est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un remaniement, qu'il y a un moment où il servira de fusible, effectivement, comme vous l'évoquiez, Patricia?
Je pense que Jean Castex, c'est un intermédiaire provisoire avant la campagne électorale. Je parle de la campagne présidentielle. Je ne suis pas certain qu'il sera le dernier Premier ministre de ce quinquennat. Il y aura eu la crise sanitaire, il aura essuyé les plâtres, il aura commis évidemment des erreurs, et je pense que le président de la République choisira pour la dernière partie de son mandat un vrai politique qui puisse l'accompagner dans une campagne électorale, et qui fasse de la politique, et qui fasse et qui prépare l'élection avec lui. Donc je ne suis pas certaine que Jean Castex sera maintenu jusqu'au bout, et je pense même qu'il sera sacrifié sur l'autel de la crise sanitaire.
Oui, Gaëtan du Saucet.
On verra bien. Moi, je pense encore une fois que ça sera un peu une excuse pour du gouvernement et surtout d'Emmanuel Macron de donner l'impression qu'il change quelque chose en changeant son Premier ministre. Après, c'est évidemment pas le cœur du sujet. Ce qu'on attend et ce que les Français attendent, c'est la capacité d'anticiper l'évolution de la crise, de mettre en place des plans, d'avoir des lits de réanimation, etc. Finalement, l'attitude de Castex derrière compte peu en réalité.
Ah, on vous entend plus. On a perdu. On vous a perdu. Allez-y. Vous m'entendez,
oui, c'est bon. Il ne faut pas perdre de vue que l'intérêt est le plus important, c'est d'être capable d'anticiper l'évolution de la crise, d'avoir des lits à disposition, une politique massive de tests, et faire en sorte que l'on puisse dès demain remettre les Français au boulot et les activités puissent à nouveau se tenir.
Ce qui est important, c'est aussi la situation sanitaire. C'est toujours le en même temps. Jean-Luc, je vais zapper votre coup de gueule tout à l'heure. Donc, je vais vous donner la parole. Je pense que de toute façon, ça va faire réagir. Ça concernait le droit de filmer les policiers.
Ça concerne la proposition de loi sur la sécurité globale. Ça concerne évidemment le droit de filmer les policiers, ça concerne une société où on vivra avec des drones qui nous surveillent, notamment quand on manifeste, de bout en bout. Et c'est surtout une atteinte directe à la profession de journaliste. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les différents syndicats de journalistes, que ce soit en France ou au niveau de l'Union européenne, ont demandé au gouvernement de changer et de ne pas faire passer cette, de laisser passer cette loi. Parce que globalement, si, je vais prendre un exemple qui est un exemple assez simple et quasiment historique maintenant en France, si les journalistes n'avaient pas le droit de filmer les opérations de police, quelles qu'elles soient, par exemple, l'affaire Benalla n'aurait jamais existé, n'aurait jamais été publiquement connue.
Sauf que ce n'est pas un journaliste qui avait filmé l'affaire Benalla.
Si, si, il y avait aussi des journalistes qui filmaient. Mais là, vous avez raison, Valérie, c'était les images qui sont sorties les plus importantes. Enfin, ce n'est pas un journaliste. Le journaliste, c'est celui qui prend des images. Je le rappelle, et vous le savez très bien, Valérie, que être journaliste, c'est être considéré comme étant quelqu'un qui fait passer de l'information. La carte de presse n'est pas obligatoire.
Non, absolument.
Mais, pardon, Jean-Luc, mais le sujet, c'est quand même que ce sont des voyous en banlieue qui n'arrête pas de filmer les policiers et qui postent ces vidéos.
Non, mais si. Ça, on peut. C'est, attendez, non, Patricia. Le sujet, clairement, c'est. Et on l'a vu. Alors, on va reparler des États-Unis juste après. Le sujet, c'est de savoir quand il y a opération de police. Alors, bien évidemment, toutes les images ne sont pas bonnes à diffuser, nous sommes d'accord. Mais on voit bien qu'avec un certain nombre d'affaires, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, avec les affaires de gens qui meurent étouffés et ainsi de suite, si les choses ne sont pas montrées, eh bien, clairement, il y a peu d'affaires. Et donc,
mais Jean-Luc, tu as raison, tu as raison.
Mais à ce moment-là, il faut une réciprocité.
Je dis simplement. Ouais,
la réciprocité existe déjà, Valérie. Hein, les policiers ont le droit, et c'est même dans la loi, c'est même plus que le droit. C'est l'obligation de filmer leurs opérations.
Ils ne font pas toujours. Sauf qu'ils n'ont pas de, vous le savez très bien, ils n'ont pas de caméra qui fonctionne. Ils n'ont pas de caméras qui sont qui fonctionnent. Donc ils ne peuvent pas le faire. Mais regardez dimanche soir enquête taboue de Bernard de la Villardière qu'on a eu juste avant, qui lui est allé filmer et accompagner des policiers en opération. Je peux vous dire que pour le coup, c'est des images qu'on voit assez rarement. Rarement tout de même. Donc c'est vrai qu'il y a une inégalité aujourd'hui, que la police pour l'instant a perdu la bataille de la communication, puisqu'on voit plus d'images de policiers qui agressent que l'inverse. Et pourtant l'inverse existe de la même manière. Je ne sais pas ce qui veut répondre, Arnaud.
Je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle ait perdu la bataille de la communication. Le juge de paix, c'est l'opinion publique en matière de communication, quand on regarde quand même les études d'opinion, la police bénéficie encore d'un soutien massif de la part de nos concitoyens. Non, sauf que moi, pour rebondir sur ce que disait Jean-Luc, mais c'est vrai qu'il y a, si vous voulez, quelque chose qui est en train de s'installer, même si le travail des policiers est extrêmement difficile, et surtout dans le contexte actuel, c'est que nous avons un État qui contrôle de plus en plus, j'allais dire, nos actions au quotidien, et par ailleurs, finalement, un État qui voudrait parfois échapper au contrôle nécessaire, finalement, de son action. Et c'est ce que finalement dit aussi ce projet de loi. Et je pense qu'il y a quelque chose, quelque part, qui est assez dangereux. Vous savez, il y a quelques mois, il y avait une interview d'un spécialiste de philosophie politique, Pierre Manant, dans le Figaro, ouais, qui était extrêmement intéressant. Et Pierre Manant, qui est un libéral, vraiment au sens, j'allais dire, minéral du terme, disait « à petits pas, nous sortons des principes fondamentaux qui sont ceux des démocraties libérales ». Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose que révèle aussi cette crise. Moi, je suis très frappé par la façon dont, finalement, on accepte aujourd'hui un certain nombre de contraintes au nom de l'enjeu sanitaire que je conçois tout à fait, mais sans qu'il y ait la moindre critique. Donc, je crois qu'il faut aussi quand même retrouver un peu un esprit critique, parfois, dans le fonctionnement, je veux dire, des institutions, des autorités. Ça me paraît indispensable.
Oui. Gaëtan Dussausset.
Oui, juste sur ce qui vient d'être dit à l'instant, je pense que bon, les critiques, il y en a. Hein. On a entendu aussi bien les responsables politiques de l'opposition que les petits commerces, que les maires, etc. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Hein. Heureusement qu'on a ce débat entre nous. Après, sur la question des forces de l'ordre et la diffusion des images, oui ou non, je pense qu'en fait, il faut essayer surtout de rééquilibrer en fait les forces. Aujourd'hui, quand un flic est en service, il a pas le temps, parce que c'est pas son boulot, de s'amuser à filmer ce qu'il est en train de faire ou de filmer ceux qui le prennent à partie ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que si on généralise, par exemple, le port de la caméra piéton pour les policiers, ça permettra, on va dire, de donner les moyens aux policiers de se défendre lorsqu'il est mis en cause par des images qui pourraient circuler sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on arrivera davantage en essayant d'alimenter plutôt le contenu de l'information qu'en essayant de le réduire.
Je peux juste ajouter une chose, Valérie, à l'heure des élections américaines. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, toutes les enquêtes de police, même les interrogatoires, sont filmées. Les policiers sont toujours accompagnés d'un policier qui filme tout. Et je pense qu'effectivement, il faut une réciprocité dans ce traitement de la communication.
Oui. Michael nous dit que tous les pays démocratiques ont une police qui est filmée en intervention. C'est ce que vous venez de dire, Patricia. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. On va parler de l'élection américaine. On ne connaît pas encore le résultat. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité. L'actualité, évidemment, ce sont les élections américaines. Joe Biden serait proche de l'emporter. Donald Trump a annoncé se lancer dans une guérilla judiciaire. Il a annoncé que cette élection était truquée, volée. Nous pensons que nous allons gagner, a déclaré le candidat démocrate aux côtés de sa colissière Kamala Harris. Et Donald Trump donc conteste les résultats en justice. Le suspense pour l'instant reste entier. Un commentaire sur cette élection. Encore une fois, je rappelle, les sondages donnaient Joe Biden extrêmement avantagé. Et puis, il n'en est rien. On voit qu'au fil du dépouillement, les résultats sont assez serrés. Est-ce que vous avez été étonnés les uns et les autres de ce qui s'est passé aux États-Unis, Patricia Balm?
Non, moi, je n'ai pas été étonnée pour la raison suivante. L'Amérique est divisée et coupée en deux. Il y avait un choix au-delà de l'élection et du choix de l'homme qui va diriger l'Amérique pour les quatre prochaines années, c'était de choisir entre l'économie et la santé. Alors visiblement, les Américains n'ont pas forcément choisi d'emblée la santé. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu cette vague bleue dont on a tellement parlé. Et je dois dire que quand j'ai observé quand même la presse française, qui s'est un peu trompé sur cette élection, ça n'a pas été un raz-de-marée, et Joe Biden l'emportera de manière très serrée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour les Américains? Il y a d'un côté cette gauche qui est un centre-droit chez nous, avec Joe Biden, et cette droite un peu dure de Donald Trump. Les Américains, eux, se préoccupent de deux choses, la sécurité et la santé, comme chez nous d'ailleurs. Et visiblement, ils ont très peur de ce qui va leur arriver demain si les entreprises font faillite, si la bourse se casse la figure et s'ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Donc, je crois que Joe Biden va l'emporter. Il lui manque 6 grands électeurs, ce qui n'est rien. Je pense qu'il a gagné cette élection, mais il a gagné cette élection avec beaucoup de difficultés. Il aura beaucoup de difficultés à diriger les États-Unis pour les 4 années à venir.
Oui. Arnaud Benedetti.
Oui, si vous voulez, la dynamique électorale du Trumpisme a très très bien résisté, contrairement à ce qu'annonçaient les instituts de sondage, qu'annonçaient la plupart de la presse mainstream aux États-Unis et même en France, où on avait annoncé le succès, le triomphe presque de Joe Biden et la déroute cuisante de Trump. On voit que tout ce qui a fait le succès finalement de Trump en 2016, la réalité sociale, le déclassement, la crainte de l'appauvrissement, le fait que les États-Unis s'interrogent en effet aussi sur leur sécurité, tous ces ingrédients ont encore fonctionné pour Donald Trump, qui a gagné des voix et qui a gagné aussi des voix, il faut le signaler, non seulement chez les classes, dans les classes populaires, dans les classes moyennes, mais aussi au sein des minorités. Donc, ce qui devrait faire réfléchir parfois un certain nombre de commentateurs sur la façon dont on perçoit ce phénomène. Alors maintenant, le résultat, on va le connaître dans quelques heures. Il y a quand même des questions qui se posent aussi sur la façon dont fonctionne aujourd'hui le système électoral américain. On avait connu finalement une élection au finish et au couteau, souvenons-nous, en 2000, dans des conditions qui étaient particulièrement là aussi compliquées. On est à peu près dans ce cas de figure aujourd'hui, avec une Amérique qui, en tout cas, restera fortement coupée en deux comme elle l'était en 2016. Et donc finalement, la scène politique américaine n'a pas fondamentalement changé suite à cette élection, me semble-t-il.
Oui. Mais c'est vrai que c'est une Amérique extrêmement divisée, c'est une Amérique qui est aussi enracinée dans une certaine forme de violence.
Juste pour ajouter un point, Valérie, moi il me semble quand même que si la défaite de Trump est confirmée dans les heures qui viennent, il y aura quand même un élément qui aura vraisemblablement, qui lui aura peut-être coûté l'élection, c'est quand même sa gestion de la crise sanitaire. Parce que là, il a vraisemblablement, lui qui est quand même un animal politique, qui a quand même une forme d'intuition qu'on peut lui contester au niveau de sa communication, mais qui néanmoins a montré son efficacité sur le plan électoral, a vraisemblablement raté quelque chose dans les derniers mois précédant cette élection.
Oui, c'est effectivement l'effet Covid. On ne sait pas quelle part il aura pris, mais en tout cas, il y aura eu un effet Covid. Gaëtan Dussausset.
Je pense qu'on a trois enseignements en fait de ces élections américaines pour faire vraiment au plus simple et au plus rapide. La première, bon, ça a déjà été dit, c'est tout simplement que il n'y a pas eu de vague Joe Biden comme on l'avait entendu à plusieurs reprises et que cet écart de quasiment 10 points dans les sondages qu'on nous affirmait partout n'a pas eu lieu. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que Trump aura au moins réussi cette chose qui est plutôt bonne et que tous les responsables politiques devraient envier. C'est de réconcilier les Américains avec les urnes, parce qu'il y a eu une participation qui était en hausse. Je crois que lui-même a augmenté son score de 3 millions de voix comparé à 2016, même si tous les votes n'ont pas fini d'être comptabilisés. Et en plus, ça permet aussi de remettre quelques éléments politiques en avant, notamment sur la question des minorités, qui ne tiennent pas finalement à ce qu'on les considère comme des minorités en fonction de leur communauté, mais qui ont les mêmes problèmes que tout le monde, c'est-à-dire des problèmes économiques, des problèmes de sécurité, et qui veulent qu'on leur réponde là-dessus. Enfin, un dernier élément, et là, je pense que c'est quelque chose qui devrait nous alerter, nous, c'est l'horreur du vote par correspondance. Le vote par correspondance, on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec pas mal d'exemples qui sortent, ça crée des suspicions en veux-tu en voilà, on a des suspicions de fraude, on ne maîtrise rien, on entend tout et n'importe quoi sur cette chose-là. Et donc, pourquoi ça doit nous inquiéter? Parce qu'il y a encore assez récemment des sénateurs, dont un sénateur socialiste, qui disait que pour les élections départementales et régionales, face au risque du maintien du virus et de la crise sanitaire dans notre pays, il fallait penser à revenir par le vote par correspondance. Donc nous y sommes entièrement opposés et j'espère qu'on n'en reviendra pas là, parce que l'exemple américain, est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en termes de mode de scrutin.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient. Pardon, Valérie.
Oui, allez-y,
Il y a d'être dit. Je rappelle juste une chose, c'est qu'il y a des électeurs qui ont reçu deux bulletins de vote et deux possibilités de voter. Donc, ils pouvaient voter deux fois et d'autres encore plus. Et je suis d'accord, ce vote électronique est une grave erreur.
Oui. Excusez-moi, Jean-Luc, à vous, Jean-Luc Benhamias.
Il n'y a pas de mal, tout. Tout va bien. Ouais. Patricia avait le droit de parler.
Pardon, Jean-Luc. Pardon.
Patricia, il n'y a aucun problème. Bon, première leçon, effectivement, une participation extrêmement importante. Depuis les années 60, ça n'était pas arrivé aux États-Unis. Donc, je trouve ça bénéfique. Deuxième chose, le système électoral américain. D'ailleurs, les Françaises et les Français vont peut-être mieux connaître à un moment donné le système électoral américain que le nôtre. Bon, je rappelle quand même que...
Qui n'est pas très loin du nôtre dans certaines villes, hein, pardon Jean-Luc. À Paris, je suis d'accord. À Marseille,
merci,
à Lille, c'est la même
chose. La loi Paris-Lyon-Marseille, par exemple.
Voilà, tout à fait. Absolument.
Mais là, il semblerait quand même que Joe Biden ait plus de voix au sens global, hein, il se dit bien, il semblerait, que Donald Trump. Bon, deuxième chose, attention, le vote par correspondance en France, ça existe. Ça s'appelle le vote par procuration.
On en a
On en a vu quelques éléments notables, notamment sur la ville de Marseille, où le vote par procuration était assez étonnant parfois. Bon, passons. Donc, après ça, moi, je trouve que le débat, j'ai jamais cru, moi, aux histoires de sondages en avance sur le fait que Joe Biden aurait des 10% d'avance, 12% d'avance. Enfin, c'est impossible quand on connaît un peu les États-Unis par État. On voit bien que c'est très différencié. Et quand on regarde la carte aujourd'hui, qui est quasiment finalisée, pas tout à fait, mais quasiment, il n'y a pas beaucoup de surprises. Il y a des surprises dans quelques États, mais ça se joue à très peu. Regardez le résultat de la Géorgie. Plus on avance dans l'heure, hier soir, Donald Trump avait à peu près 90 000 voix, je crois, d'avance. À l'heure où nous parlons, je pense qu'on est maintenant à 15 000 ou à 10 000. Et tout se joue vraiment sur des franges extrêmement faibles. Voilà. Le problème, c'est que Donald Trump paye ces outrances. Il y a un truc incroyable qui est arrivé aux États-Unis, c'est que le vote avait lieu par rapport à la crise du Covid, avait lieu les supporters, les électeurs et électrices de Monsieur Donald Trump ne portaient pas le masque, et les électeurs et électrices de Joe Biden portaient le masque. On est arrivé à un niveau assez étonnant, hein, quand même. Heureusement que ça n'arrivera pas en France.
On a un auditeur en ligne avec nous, on a Thierry qui nous appelle du Tarn. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes avec nous sur Sud Radio, on vous écoute.
Eh bien, j'avais déjà écouté la semaine dernière votre émission au sujet des élections américaines et j'avais fait la même conclusion qu'un de vos intervenants, c'est-à-dire que sans avoir fait de grandes études sur les élections et la conception des élections en Amérique, on pensait bien que Donald Trump pouvait être battu. Son comportement vis-à-vis de la Covid, effectivement, je pense, n'a pas aidé à sa réélection. Maintenant, il y a aussi un historique, hein, des propos tenus, enfin tout un ensemble de comportements qui, je pense, n'a pas satisfait la population américaine.
Oui, mais enfin, ils sont quand même à touche-touche. Je veux dire, ce qu'il faut aussi peut-être retenir, c'est, merci Thierry de nous avoir appelé, mais c'est vrai que Trump, et c'est ce que disait Jean-Luc Hess hier, est quand même le symbole de quelque chose. C'est pas une erreur, Trump. Il a été élu par les Américains, et là, il y a une grande partie des Américains qui ont voté pour lui. En particulier, son vote a été le vote des femmes blanches, des hommes noirs a augmenté, des femmes noires. Je vois sous mes yeux là le tableau des latinos, hommes et femmes, et il y a toute une partie de la population qui a voté pour lui, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, tout ce qu'on appelle les cols blancs n'ont pas voté pour lui. Donc il y a une Amérique, encore une fois, qui va vivre côte à côte, puisqu'il y a une vraie scission entre ces deux Amériques, et je ne sais pas comment ça va...
Il était le porte-voix des classes populaires et des classes moyennes, de ceux qui ont été déclassés, comme il y en a d'autres d'ailleurs en Europe. Mais peut-être, en effet, ce qui lui coûte l'élection, c'est qu'il s'est présenté comme le président protecteur des Américains, et que, encore une fois, sur la crise sanitaire, il n'a pas endossé ce rôle-là. Et donc, c'est peut-être ça aussi la raison de son échec, qui reste quand même extrêmement relatif. Très relatif, parce que sociologiquement, le Trumpisme compte encore aux États-Unis de manière très forte.
N'oublions jamais que le président Trump est soutenu très fortement par les églises évangéliques. Et que les églises évangéliques existent sur l'ensemble du territoire américain, quels que soient les États, dans toutes les couleurs, dans toutes les ethnies. Et qu'à ce niveau-là, reste n'a pas, pour ces électeurs-là et électrices, je ne juge pas, n'a pas beaucoup d'importance. C'est bien la parole de leaders évangéliques, et Donald Trump en est absolument entouré, qui fait parole et qui fait foi, c'est le moins qu'on puisse dire.
Est-ce que vous avez entendu ce matin sa conseillère spirituelle, incroyable, Paula White, je ne sais pas si Pierre-Yves, notre réalisateur, a le son, qui a prêché hier, écoutez.
I hear a sound of an abundance of rain. I hear a sound of victory. The Lord says it is done. For I hear victory, 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 victory in the quarters of heaven. In the quarters of heaven, victory, 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 victory.
Bonjour. Alors, il y a un côté, Valérie, il y a un côté secte autour de Donald Trump. Moi, je l'avais dit, je l'ai vu dans le documentaire formidable de Bernard de la Villardière. Il a autour de lui, effectivement, ces évangélistes qui prient, qui sont portés quelque part par une spiritualité étrange. Donc, c'est une Amérique particulière, et il y a aussi une partie de l'Amérique, une grande partie de l'Amérique profonde, qui a voté pour Trump dans ce sens sectaire et évangéliste, et Jean-Luc a parfaitement raison. Maintenant, Trump aussi a été aimé, et il faut le reconnaître, parce que c'est une vedette de la télé-réalité, et qu'en tant que président, il s'est comporté comme une star de la télé-réalité. Et les Américains, une grande partie des Américains, ont aimé ce show. Et je ne suis pas certaine qu'avec l'élection de Joe Biden, les Américains s'amuseront aussi. Maintenant, ils payent aussi ce comportement vulgaire, des attitudes et des mots qu'un président ne peut pas prononcer. Je pense que Donald Trump n'a pas dit son dernier mot et qu'il est encore là pour quelques années, sûrement sous une autre forme. Je terminerai en disant la chose suivante. Il a échoué sur la crise sanitaire. Il a fait de grosses erreurs. Et je pense qu'en France, au moment de l'élection présidentielle de 2022, les Français jugeront aussi le président sur sa gestion de la crise sanitaire. Et aujourd'hui, une campagne électorale se fait et une élection se fait sur la crise sanitaire qui a été bonne, positive ou négative.
Maintenant, si encore une fois le résultat n'est pas connu, mais si Biden l'emporte, on lui souhaite bon courage, parce que les États-Unis qu'il va falloir gérer aujourd'hui, ça ne va pas être simple, et on ne sait pas si lui va être à la hauteur de la tâche, Gaëtan Dussausset, parce qu'on a vu un certain nombre d'absences pour être élégant de la part de Joe Biden. Donc est-ce que c'est Kamala Harris qui finalement va devenir présidente des États-Unis?
Et c'est un peu ce qui peut nous inquiéter. C'est vrai qu'on a pas mal d'images qui ont diffusé, qui ont pas mal été relayées depuis hier sur tous les moments d'absence de Joe Biden, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est plutôt ses soutiens et qui a soutenu la campagne de Joe Biden pendant toute cette campagne. C'est l'extrême gauche. Et une extrême gauche, et on l'a vu, il y en a certains d'ailleurs en France qui essayent d'importer finalement ce modèle ou cette philosophie anglo-saxonne sur notre territoire avec tous ces mouvements indigénistes, d'extrême gauche, communautaristes, et qui évidemment posent les germes de la division sur le territoire. Et c'est vrai que tous les mouvements Black Lives Matter, quand ils ont été réimportés ensuite en France avec les collectifs Adama Traoré, on a vu ce que ça a donné, une explosion de la haine antifique, une explosion de la haine anti-France. Et donc voir des choses comme ça, si en effet c'est le modèle que choisissent les Américains demain, ça pourrait évidemment de mettre un peu de vent dans l'aile d'un certain nombre de groupes indigénistes en France, et ça m'inquiète, parce que encore une fois, c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Ça va pas dans le bon sens, c'est très dangereux. On a vu les images que ça a donné, et j'espère que ce n'est pas le modèle qu'on aura demain.
Oui, je pense pas que Joe Biden soit totalement à l'extrême gauche, hein. Mais
moi non plus.
Non, sur le plan économique, c'est vrai. Certainement pas sur le plan économique, mais il suffit de voir ses soutiens, et notamment la campagne qu'il a menée à destination de ses communautés. Je vous le disais en début, en commentaire sur les résultats américains, quand Trump parlait de sécurité, de prospérité, d'économie pour tout le monde, on avait de l'autre côté Joe Biden qui finalement essayait de conforter les communautés parce qu'ils sont de telles communautés. Il confortait les minorités parce qu'ils sont minoritaires. Et ça, ce n'est pas un discours qui ne correspondrait par exemple à notre ADN, à nous.
Allez, on marque une pause, on revient en France avec le confinement, un confinement qui n'est pas respecté. Va-t-on avoir droit à un couvre-feu? C'est en tout cas ce qui semble se profiler ce soir. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors, le confinement est-il assez respecté? La France fait face donc à cette nouvelle vague de Covid-19. Plusieurs professionnels de santé dénoncent le fait que certains Français ne respectent pas assez ce confinement. Trop de gens dans les rues, télétravail non respecté. Et certains demandent aujourd'hui un renforcement de ces restrictions. Olivier Véran, donc, estime que le pays aujourd'hui est armé pour combattre le virus, et pourtant on a entendu parler de l'hypothèse d'un couvre-feu ce soir, ce qui serait annoncé ce soir en Île-de-France. Patricia Balm.
Valérie, qu'est-ce qu'on peut demander de plus aux Français que de sortir une heure par jour avec une attestation pour faire ses courses, de rester chez soi, de porter des masques, d'utiliser du gel. Je pense qu'on a tout demandé aux Français et que les Français sont adultes, ne sont pas des enfants et qu'ils ont, dans l'ensemble, majoritairement respecté ce confinement. Alors, qu'il y ait des dérives, qu'il y ait des jeunes encore qui se réunissent ensemble dans la rue, mais je crois que là, on ne peut plus aller plus loin. Il y a des limites et les Français ne sont pas des enfants, ce sont des adultes, ils souhaitent se protéger. Je pense que là, on a atteint le bout. Quant aux librairies, moi, j'en parle tout le temps. Je trouve ça lamentable, scandaleux. On ferme des librairies, on ouvre des grandes surfaces. Mais je pense que les Français, quand même, sont des gens sensés et ce ne sont plus des enfants. On ne peut pas être plus punitif que ça.
Oui, mais pas tous, vous dites dans l'ensemble, et le problème c'est justement le dans l'ensemble, c'est que certains ne croient pas au virus, certains appellent à une
oui,
forme de...
Oui, mais ce sont des cas
extrêmement minoritaires. Extrêmement oui.
Exactement.
Minoritaires.
Exactement.
Extrêmement.
Oui, Jean-Luc, Benhamias.
Quel que soit, sérieusement, mais ce discours, oui, c'est grave, ok, mais tout le monde a compris, 98% de nos concitoyens ont compris... font attention, alors ils font quelques petites erreurs de temps en temps, mais font attention. Mais les discours totalement contradictoires, que je peux comprendre, hein, on laisse les marchés ouverts, on laisse les hypermarchés ouverts, on laisse un certain nombre de commerces ouverts, on demande aux gens de faire du télétravail, mais on ne l'oblige pas, on demande aux gens d'aller travailler, de pouvoir circuler, évidemment dans ces cas-là, que le Covid continue peu ou prou à circuler. Mais les efforts, et Patricia a entièrement raison, faits par les Françaises et les Français par rapport au nombre de choses, vous vous rendez compte qu'on est encore avec un Osweiss, vous vous rendez compte que les enfants de 6 ans, quand ils sont en CP, doivent mettre un masque à plein temps. Je discute, comme beaucoup de gens, avec des amis qui sont directrices d'école, maternelle et primaire. Mais elles n'en peuvent plus. Faire respecter des règles sanitaires aussi importantes, c'est extrêmement lourd. Elles le font, elles essayent, mais c'est compliqué. Voilà. Et donc, forcément, quand on fait circuler, et c'est normal, un certain nombre de nos concitoyens, qu'ils soient jeunes ou adultes, évidemment, le Covid continue malheureusement à circuler. Mais je ne crois pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin.
Oui.
Ouais.
Gaëtan Dussausset.
Oui. Oui, non, mais Jean-Luc Benhamias a parfaitement raison. C'est vrai que, et à un moment donné, si on se dit, bon, le confinement n'est pas assez respecté, c'est-à-dire qu'il faudra aller jusqu'où? Parce que en fait, c'est ça. Si vous voulez encore plus de restrictions, c'est quoi les prochaines restrictions qu'on mettra en œuvre? Est-ce qu'il faut aller sur un modèle chinois où finalement vous ne sortez pas de chez vous, c'est l'État qui vous apporte vos courses et de quoi vous nourrir et boire, etc. Bon, il y a un moment donné, il faut aussi se poser la question de jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut mettre des restrictions. Donc, encore une fois, ça a été dit, je vais répéter, mais 98% des Français respectent les consignes qui sont données, ont respecté aussi avant les couvre-feux, la fermeture des restaurants. Bah, souvenez-vous à Marseille qu'on avait eu quand même un vent de protestation des restaurateurs qui apprenaient du jour au lendemain demain qui devait fermer. Bon bah pour autant ils ont tous suivi 48 heures après et ils ont été absolument responsables. Donc voilà, après ça a été dit aussi, mais c'est évidemment le gouvernement qui par le manque de cohérence, le fait de ne pas donner d'échéancier aux Français en disant on prend telle mesure, si ça va mieux dans 10 jours on prend telle autre mesure, ou bien au contraire on redonne un peu de liberté aux gens, tout ça, toutes ces contradictions qu'il y a, fait que les gens ont du mal aussi à avoir pleinement confiance dans le gouvernement. Mais malgré ça, ils sont tout à fait responsables dans cette crise.
Ouais. Arnaud Benedetti, c'est le message également qui n'est pas clair. Les consignes, le travail pourra continuer. On entend les différents ministres, vous les avez entendus, ça a été repris un petit peu partout. Elisabeth Borne qui dit on ne se contamine pas au travail. Djebari, le ministre des Transports, dit on ne se contamine pas dans les transports. Enfin, c'est le message aussi politique qui est assez...
Oui. Parce qu'ils ont perdu le contrôle de la situation. Ça, c'est assez manifeste, en l'occurrence, si vous voulez. Mais moi, je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a des contradictions, comme l'a fort justement dit Jean-Luc Benhamias, qui ne sont pas seulement des contradictions de communication, qui sont aussi des contradictions en matière de politique publique également. On le voit bien. Il y a le deuxième sujet, c'est qu'ils n'ont toujours pas résolu le problème qui était le problème matriciel de la première crise, c'est-à-dire le problème des moyens, c'est-à-dire de la logistique. Et cette crise, c'est aussi une crise de la logistique hospitalière et la crise de l'organisation. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a encore un certain nombre de difficultés de coordination et on utilise vraisemblablement, je pense insuffisamment, le potentiel sanitaire de la France. L'articulation, par exemple, avec les cliniques privées, qui est un sujet qui avait été évoqué lors de la première vague, ce sujet me semble rester d'actualité. Est-ce qu'on utilise particulièrement mieux, peut-être un peu mieux, me semble-t-il, la médecine de ville qu'on l'a fait lors de la première vague? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a tous ces sujets qui demeurent. Troisième point, il y a quand même quelque chose d'absolument, moi je trouve, en tout cas à titre personnel, de plus en plus insupportable. C'est-à-dire de faire porter la responsabilité à la société, de la réussite d'une politique, alors que quand même, je rappelle que la mission de l'État, c'est de protéger les citoyens et protéger les sociétaires que nous sommes, en l'occurrence, c'est un discours qui va être de moins en moins accepté. Il faut quand même voir que la situation d'un certain nombre d'opérateurs économiques, je pense au commerce de proximité, je pense aux opérateurs touristiques, je pense aux cafés, je pense aux restaurateurs, est aujourd'hui au bord de la rupture, en l'occurrence. Ah oui. Et continuer, je veux dire, à tenir ce discours qui consiste à culpabiliser toujours plus les Françaises et les Français qui, dans leur ensemble, je veux dire, se sont mis, j'allais dire, en marche, entre guillemets, pour respecter les consignes sanitaires de manière à peu près homogène, à l'exception, il y aura toujours des exceptions dans une société, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en l'occurrence. Il faut l'accepter, même si on peut le déplorer. Ben, je trouve que ce discours-là est difficilement acceptable. Et dans un contexte où quand même, moi je suis extrêmement inquiet, je le dis, je le répète, sur la façon dont on utilise l'urgence sanitaire pour restreindre toujours plus un certain nombre de libertés fondamentales. Vous savez, l'histoire nous démontre que chaque fois qu'on accepte ce type de restriction, il est toujours très difficile de revenir dessus. Donc, il faut espérer qu'on revienne très vite dans un fonctionnement normal de la société, dans un fonctionnement démocratique du champ politique.
Oui. Un dernier mot.
Je dirais qu'il faut absolument, et je rejoins ce que vient de dire Arnaud Benedetti, je crois qu'il faut sortir du schéma punitif dans ce pays. Et à tous les niveaux, que ce soit pour les automobilistes, que ce soit pour les personnes qui doivent se protéger et qui ont des amendes de 135 euros s'ils ont mis leur masque dans leur poche pour 5 minutes, au niveau fiscal, à tout niveau, je pense qu'il faut enlever l'aspect punitif dans notre pays.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff que vous retrouverez pour d'autres informations. Très bonne journée sur Sud Radio. On se retrouve demain à 10h.